des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Gérard Filoche, membre du Bureau national du Parti socialiste de novembre 2000 à novembre 2005 et inspecteur du travail. Alors, je suis allée voir Gérard Filoche chez lui le lundi 22 octobre. On s'était mis d'accord. A priori, on faisait deux émissions, l'une sur le traité dit simplifié et l'autre sur les attaques sociales du président Sarkozy. Eh bien, ça sera deux émissions en une. C'est qu'il n'est pas facile à driver, Filoche. Et en plus, l'animatrice était malade. Bon, c'est bon. Je l'aime bien, moi, Filoche. Et j'aime bien sa façon de parler, pas propre sur soi, tendance prolo. Ça change.
Aux dernières nouvelles, Nicolas Sarkozy dit qu'il n'a pas à faire passer le traité simplifié par la voie référendaire parce qu'il a la légitimité d'une élection gagnée haut la main sur un programme dans lequel il disait justement que le nouveau traité serait ratifié par la voie parlementaire. Mais donc il a raison.
Non, c'est une foutaise. Il y a eu un vote par un référendum pour défaire un autre référendum est nécessaire. Ce n'est pas l'élection présidentielle qui peut s'y substituer. C'est une arnaque d'expliquer que la démocratie fonctionne comme ça. À ce moment-là, Chirac n'avait pas, lui, besoin de faire le référendum puisqu'il était pour le oui. En fait, M. Sarkozy essaie de berner le peuple français et de lui imposer antidémocratiquement le contraire de ce qu'il a voté.
Vous pourriez dire que le traité simplifié, c'est pas l'ancien TCE.
Mais c'est une deuxième foutaise. C'est le même. C'est le même contenu. C'est la même orientation politique. La présentation a à peine changé. Alors, je ne sais pas comment on peut oser dire qu'il y a des modifications. Et d'ailleurs, personne n'est capable de formuler une phrase pour dire où est la modification. Parce que si une phrase était formulée en ce sens, il y aurait tout de suite 26 autres États qui diraient « mais non, c'est pas celle-là ». Et tous ne peuvent s'accorder que sur le consensus le plus bas qui s'est déjà imposé entre eux il y a maintenant 4 ans. Donc on a le même traité, il devrait y avoir les mêmes effets. Il devrait être soumis à un référendum. Et si c'était le cas, le peuple français devrait confirmer son vote du 29 mai 2005.
Sauf que finalement, il y a bien peu de forces politiques qui appellent clairement à ce référendum.
Ah ben, on ne sait pas encore. Le traité va être finalement adopté en décembre. Toutes les forces politiques auront à se déterminer. Je pense évidemment que toutes les forces de gauche et démocratiques doivent d'abord prendre position pour exiger un référendum de Sarkozy et ensuite prendre position pour que le vote précédent du peuple français soit confirmé.
Là, on est globalement fin octobre. Le texte a déjà été, comme on pourrait dire, publié, il a été avalisé. Les gouvernements sont tombés d'accord le 18 et 19 octobre. Qu'est-ce qu'on a besoin d'attendre que ce texte soit adopté en décembre? Qu'est-ce que ça va changer sur le...
Parce que pour nous, il n'est pas encore... Enfin, il y a des rythmes, voilà. D'ailleurs, ce ne sera pas en décembre, ce sera forcément en janvier ou février, parce que il faut la ratification par l'ensemble des pays européens au sommet. Et puis ensuite, il faut la convocation d'un... Puisque c'est la voie qu'a choisie Sarkozy d'un congrès parlementaire... Il faut adapter la Constitution probablement encore une fois pour qu'il soit ainsi ratifié. Donc nous serons confrontés à cela dans quelques semaines. Maintenant, si vous voulez dire que on peut déjà lire le traité et avoir une opinion, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je l'ai formulé. C'est non à une Europe libérale, oui à une Europe sociale. Il continue à nous proposer la concurrence libre et non faussée sous toutes les formes. C'est pas parce que ça a été enlevé une fois dans le texte, selon Sarkozy, que ça ne se trouve pas 20 autres fois dans les autres chapitres. Et la concurrence libre et non faussée, bah c'est la loi de la jungle, hein, c'est-à-dire c'est le contraire de la civilisation. Vous mettez deux humains comme de Cro-Magnon, quoi, autour d'un morceau de viande. Il y en a un, il tue l'autre, il mange un morceau de viande. Ça, c'est la concurrence libre et non faussée. L'histoire de la civilisation, c'est que peu à peu, on a mis des règles. Alors, les humains ont appris à se partager le morceau de viande sans se tuer. Encore que le plus gros, au début, il avait toujours le plus gros morceau de viande. Et alors, quand la civilisation a progressé, on est arrivé à partager moitié-moitié. Et quand elle a progressé encore, la civilisation, on est même arrivé à donner plus de viande à celui qui était plus faible parce qu'il en avait plus besoin. Ça s'appelle la sécurité sociale. L'histoire des civilisations va dans ce sens. Le traité européen qu'on nous propose va dans l'autre sens. C'est plutôt vive Cro-Magnon. Si le mangeur de viande polonais peut arriver à être plus gros que le mangeur de viande croate, eh bien c'est lui qui l'emporte. Et vice-versa. Bon, c'est pas une règle de civilisation, c'est pas un progrès. Le progrès, c'est d'harmoniser les droits sociaux par le haut, pas par le bas. Le progrès, c'est d'avoir un SMIC européen et pas de faire du dumping social. Le progrès, c'est que ça soit l'Europe des 35 heures et pas l'Europe des 72 heures. Le progrès, c'est qu'il y ait une harmonisation fiscale et non pas une compétition à coup de hausse de TVA comme on va avoir bientôt. Le progrès, c'est le partage des richesses et non pas le pillage par les banques. Le progrès, c'est que la Banque Centrale Européenne soit sous contrôle des citoyens et non pas une banque d'affaires capable de dépenser d'un seul coup 300 milliards d'euros pour venir au secours des banques américaines qui elles-mêmes sont en panne parce que les petits épargnants n'arrivent pas à couvrir les dettes qu'on leur a fait inculquer. Une banque centrale européenne qui prétend qu'elle lutte contre l'inflation et qui fait quand même 300 milliards d'euros d'un seul coup de placement, c'est assez paradoxal. Et pourquoi alors n'impose-t-on pas une banque qui s'occuperait de la croissance, qui s'occuperait de l'emploi, qui s'occuperait des grands travaux, qui s'occuperait d'aider les pays qui sont en difficulté pour rattraper progressivement le niveau des autres? Bon, voilà, je suis en train de vous décrire toute l'Europe que j'en suis sûr, l'immense majorité des peuples veulent. Alors pourquoi on signerait ce traité chiffon de papier qui ne concerne que des actionnaires et qu'on va nous imposer à Lisbonne?
Aligre FM 93.1.
Tout à l'heure, vous aviez l'air de dire que ce traité simplifié était à repousser parce qu'il pérennisait l'aspect libéral de l'Europe. Mais enfin, qu'on laisse passer ou pas ce traité-là, ça ne changera pas grand-chose, parce que l'Europe, elle est déjà libérale.
Oui, l'Europe est déjà libérale, il n'y a pas de raison de se résigner. On a même un président libéral, il n'y a pas de raison de se résigner à ce qu'il fait. Voyez-vous, je trouve même que ce que l'actuel omniprésident essaie de faire à la France, même en dépit de sa victoire électorale, ça ne va pas bien passer. Là, il essaie de faire une espèce de purge, de cure brutale, de libéralisme aigu, à toute vitesse dans tous les domaines, et ça heurte les vieilles aspirations populaires, les traditions sociales qui existent chez nous, la masse du salariat qui commence à voir venir ça, avec, pour ceux qui ont voté pour lui avec surprise, pour ceux qui ont voté contre lui avec colère. Et je pense que le libéralisme qui est dans l'air du temps, je ne vais pas le nier, on nous fait des déferlantes de mondialisation libérale tous les matins dans les radios de services publics et autres. Donc on pourrait être abusé, on pourrait baisser les bras. Mais en fait, c'est pas ce qui se passe. Notre peuple est capable de résister, le salariat c'est 91%. De la population active. Nous avons fait des grandes grèves en 1968, en 1986, en 1995, en 2003, en 2006 encore, avec l'extraordinaire victoire contre le CPE. Eh bien, il va y avoir d'autres affrontements sociaux. Je pense que Sarkozy ne s'en rend pas compte encore, mais que, un peu quand même, parce qu'il fait de plus en plus, il revendique sa légitimité du 6 mai. Le fait qu'il soit obligé de le faire de plus en plus souvent montre qu'elle s'use, déjà. Et quand il y a tous les scandales qui l'entourent, quand la croissance n'augmente pas, quand le chômage augmente, 11 800 encore en mois d'août, quand il a fait les cadeaux de 15 milliards aux riches, quand il annonce qu'il va y avoir des franchises médicales, quand il annonce que les retraites vont passer à 41 ou 42 annuités, ça sera bientôt 61 ou 62 ans, peut-être 65 qui se profilent, quand il annonce que il faudra bien rembourser les dettes que la France contracte à cause d'eux, et ces dettes, bah, c'est ceux qui, les salariés qui vont les rembourser, quand tout ça se conjugue, arrive en même temps, quoi. Eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a un grand choc de défiance. Hein, lui, il parle de choc de confiance pour remettre l'économie en route, mais ce qui se produit, c'est un grand choc de défiance. Les gens commencent à se dire, oh là là, il faut qu'on s'en remue, sinon on va y perdre beaucoup plus que même ce qu'on croyait, ou on ne va pas gagner ce qu'on attendait. Donc je pense qu'il va s'isoler. Il essaye encore de nous couvrir de ses discours d'ouverture, mais ça, personne n'y croit. C'est du débauchage d'un côté et de la trahison de l'autre. Et je ne crois pas que sur le plan politique, l'espèce d'État un peu cotonneux dans lequel on est va durer. Le libéralisme est une potion amère qui passe mal parmi les salariés français. Je pense que les salariés français vont se soulever sous une forme ou sous d'autres. Sarkozy avait dit qu'il voulait liquider mai 68. Moi, je crois que c'est plutôt le souvenir et la présence de mai 68 qui peuvent liquider Sarkozy.
Écoutez, vous aurez en réalité 24 pays qui voteront oui, et puis le mouton noir qui aura tout bloqué.
C'était une fois dans le pays, parmi les champs et les prairies, un beau troupeau de moutons blancs dans les prés paissait insouciant. Mais
au milieu du troupeau qui bêle, un mouton noir se rebelle.
On me tond la laine sur le dos, j'ai plus que la peau sur les os. On veut faire de moi un échoui, faudrait encore que je dise oui.
N'ayez pas peur, mes amis.
Le mouton noir a bien compris que les loups faisaient les gentils.
Avec l'espoir, quand vient la nuit, de brader par bout la bergerie.
Pour une concurrence non faussée.
Au milieu du troupeau qui bêle, le mouton noir se rebelle.
Le mouton noir a bien compris, l'homme est un loup pour le mouton.
Quand soudain le mouton grogne,
les loups s'affolent pour un non.
Le seigneur n'est pas mon berger, je suis le mouton de personne.
Le mouton noir a décidé d'ignorer le clairon qui sonne.
Au milieu du troupeau qui bêle, le mouton noir se rebelle.
Le mouton noir n'est pas gentil, il en a marre de dire amen.
Ah, ah, alléluia.
Au chien de garde, sur toutes les chaînes.
Le mouton noir ne dit pas oui. Le mouton noir, enfin bois rouge, se dit que tout seul rien ne bouge. Qu'il faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un bon gigot. Il faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un bon gigot. Il faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un bon gigot.
Moralité:
à prendre les gens pour des moutons, on se prend des retours de bâton. À prendre les gens pour des moutons, on se prend des retours de bâton. À prendre les
moutons
gens
de toutes les prairies, unissons-nous.
Des retours de bâton. À prendre les gens pour des moutons.
L'émancipation des moutons sera l'œuvre des moutons eux-mêmes.
À prendre les gens pour des moutons.
El troupeau unido ramassera vencido.
À prendre les gens pour des moutons. On se prend des retours de bâton.
des souris des hommes et on est toujours en compagnie de Gérard Filanche, ancien membre du BN du Parti Socialiste et inspecteur du travail.
Certains pourraient dire quand même des socialistes qu'ils sont... Enfin, certains disent des socialistes qu'ils sont réalistes, qu'ils sont modernes et qu'il faut s'adapter à la mondialisation et à l'Europe. Et donc, bah oui, effectivement, les retraites peuvent être remises en cause, la sécurité sociale aussi, parce qu'autrement, on n'est pas compétitif. Donc, dans un monde ouvert, qui est accepté par les socialistes, donc nécessairement, il faut ces réformes-là.
Oui, mais je suis habitué à cette thèse, que celle en gros des strauss-caniens. Je la rencontre dans des sections, je l'ai même rencontré l'autre jour dans un débat public avec un autre socialiste sur une chaîne de radio, il me disait ces choses-là. Mais ça tient pas debout, je voudrais prendre un exemple. Oh, l'Europe, faut être réaliste sur les retraites, regardez, ils ont tous augmenté l'âge de la retraite, 65 ans, etc., etc. Ah bon? Mais la moyenne de départ des gens en retraite, ou en tout cas de cessation d'activité des gens en Europe, ça reste 57 ans. Ça veut dire que quand on leur a mis un objectif d'atteindre la retraite à partir de 65 ans, on les fait sauter à la perche sans perche. Ce qu'est le socialisme du réel en Europe, c'est de partir de la situation concrète dans laquelle on est. Si le départ des gens est à 57 ans, il ne faut pas leur fixer une retraite 10 ans plus tard. Il faut l'organiser à 57 ans. Et si on pouvait les maintenir au travail à 58, il faut la mettre à 58. Si on les mettait au travail à 59, il faut la mettre à 59. Ça, c'est le socialisme du réel. Mais on a des petits utopistes menteurs. Ils prétendent que le socialisme du réel, c'est le but qu'ils veulent atteindre dans 10 ans, sans tenir compte des gens avec qui ils veulent l'atteindre. Sans tenir compte de la démocratie, sans écouter les manifestants, sans écouter les salariés. En fait, c'est un socialiste de technocrate. Et les gens qui planifient l'avenir, non pas à partir du réel, mais à partir des ratios et des courbes bancaires qui font augmenter les profits. Bon, on sait depuis longtemps que ces gens-là se sont trompés. C'est ceux qui vous disaient, les profits d'aujourd'hui font... les investissements de demain qui font les emplois d'après-demain. Il disait ça il y a 25 ans. On en est toujours dans le réel, au premier membre de la phrase. Les profits d'aujourd'hui, mais les investissements de demain, on les voit toujours pas, les emplois d'après-demain non plus. Moi, je suis un socialiste du réel, un socialiste moderne. Je suis un vrai social-démocrate. Je suis absolument pas archaïque. Je suis pas utopiste. Je suis donc pour les 37 annuités de cotisation. Parce que comme les gens cotisent 37 annuités, je ne vais pas leur exiger qu'ils en cotisent 40 ou 41. Ça, c'est soit les réactionnaires, soit les nuls qui ne savent pas regarder la réalité. Bon, voilà. Après, on peut prendre aussi en termes de temps de travail. J'entends maintenant des socialistes qui disent « Ah non, 35 heures, peut-être plus, c'est peut-être plus le moment, etc. » Mais c'est plus que jamais le moment. Parce que il faut rapprocher les durées réelles de la durée légale du travail. Les durées réelles sont à 40, 45 heures, 50, 55 heures, quand c'est pas 60, illégalement. Et qu'à regarder dans la restauration. Alors les gens veulent même plus y travailler. Vous avez 800 000 personnes, ils font près de 60 heures par semaine, ils sont payés avec un lance-pierre, et on leur autorise 360 heures supplémentaires sans qu'elles soient majorées à 100%. C'est des reculs considérables. Voilà. Pourtant, vous me direz pas que la restauration, elle est soumise à la concurrence internationale, hein. C'est pas le commis cuisine chinois qui nous impose la concurrence, pas plus que le commis cuisine polonais. C'est bien les patrons de la restauration française. Donc dans la restauration française, il n'y a pas d'argent, bien sûr que si. Sur les 800 000 salariés, vous en avez 200 000 dans des grandes chaînes, vous en avez 600 000 autres qui sont dans des petits établissements, mais quand vous regardez les petits établissements de près, vous voyez qu'ils sont pas tous malheureux. Bon, il y en a qui ont du mal à survivre, mais enfin, n'exagérons pas quand même. Et alors, on voit là-dedans, dans les enquêtes URSSAF, qu'il y en a 25%, 1 sur 4, qui font appel à du travail illégal, non déclaré. Mais où on est ici? C'est pas, ça a rien à voir ni avec la mondialisation, la mondialisation. C'est une question de droit, une question de dignité, de justice, de salaire, de partage des richesses. Il faut que les gens dans la restauration, il y ait plus de précaires, il y ait plus de gens à la plonge au fond qui fassent 18 heures par jour, il faut plus de gens qui ne soient pas payés. Mais ce que je vous dis pour la restauration, il va là pour le bâtiment. Parce que là aussi, dans la rénovation, c'est pas le maçon chinois qui nous fait concurrence. Hein, il y a 1 100 000 personnes, on pourrait les respecter, les payer comme il faut. Et on serait pas forcément allé obligé de chercher des esclaves polonais, roumains, égyptiens pour le faire à la place. Si on payait correctement les gens, qu'on leur donnait des bleus de travail, des chaussures de sécurité, des casques, s'ils mangeaient pas sur des pierres, et s'il y avait des bonnes cantines le midi, eh ben, les jeunes accepteraient d'y travailler. Donc tout ça, tout ce qu'on nous dit sur les choses qu'on ne peut plus faire, qu'on ne doit pas faire, qui seraient plus réelles, je n'y crois pas. Je suis vraiment un socialiste entêté en la matière.
Aligre FM 93.1.
Et là, si on revient effectivement un petit peu sur le traité, vos petits camarades socialistes vont bouger ?
Ah, la direction du Parti Socialiste prendra ses responsabilités pour l'instant. Et le débat est ouvert et j'entends le premier secrétaire qui dit qu'on pourrait trouver une position commune. J'espère que la position commune sera celle des électeurs socialistes de 2005. 59% d'entre eux ont voté non. J'espère que la position commune sera celle de la gauche en 2005. 75% des électeurs de gauche ont voté non. Je trouve que ce serait la meilleure position commune, c'est d'être en accord avec le peuple de gauche. Bon, on va voir. Alors maintenant, les conséquences quand même sont parallèlement intéressantes. Nous sommes dans une Europe de 27 pays maintenant. 27 pays. Et j'ai regardé les statistiques très récemment. Le salaire moyen français est dans la moyenne des salaires des 27 pays. On souvent dit que le coût du travail chez nous était trop élevé, y compris avec 10-12 des pays européens nouvellement arrivés dans la communauté, dans l'Union, il semble que ce soit pas si clair que ça. On devrait regarder, nous socialistes, de plus près tous les droits du travail, tous les droits des salaires, toutes les durées du travail, tous les statuts européens, et regarder un peu tout le chemin qu'il y a à faire. La France est loin d'être privilégiée en la matière, loin d'être en avance en la matière. On devrait pouvoir revendiquer des choses qui finalement ne dépendent même pas de l'Europe à la limite. Hein. C'est-à-dire il y a des espaces en France où on peut interdire les contrats précaires, où on peut augmenter le SMIC à 1500 euros, où on peut imposer les durées maximales du travail en dessous de 48 heures. La France peut le faire et doit le faire. Et les socialistes devraient écouter le peuple de France qui réclame ça.
Et oui, donc, c'était Des sous et des hommes avec Gérard Filoche. Ça a l'air de bouger un peu sur le traité simplifié. Du côté du premier secrétaire du Parti Socialiste, non. Mais du côté de Fabius, oui, et grâce lui soit rendue, parce que c'est l'un des rares audibles dans les médias classiques, Chevènement, Dupont-Aignan et Mélenchon étant quasiment snobés par ceux-ci. Il y a des sites qui sont nés sur lesquels vous pouvez trouver plein d'enseignements sur ce traité dit simplifié. Il y a d'abord celui superbe de Mélenchon, www.respectez-notre-nom-tout-attaché.org. Il y en a un autre proche de Jean-Pierre Chevènement, www.non-non-et-non.org, et un site proche de Nicolas Dupont-Aignan qui s'appelle www.debout-la-république-avec-un-tiret-entre-chaque-mot.fr. Toutes ces références, vous pouvez les retrouver sur un petit site. Le titre, c'est www.traité-simplifié.org. Voilà, la semaine prochaine, mystère. L'animatrice était malade, je sais pas comment ils font sur France Inter, ils ne sont jamais malades. Et elle était occupée à voir ce qu'elle pouvait faire pour que les médias classiques ne s'associent pas au déni de démocratie que constituerait l'adoption par voie parlementaire du même texte que celui de 2005, de l'aveu même de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a un texte absolument passionnant qu'il faut lire, qui est tiré du Monde. C'est ce texte, vous pouvez le retrouver soit sur le site du Monde, soit justement sur le site traité-simplifié.org, un texte de Valéry Giscard d'Estaing, qui dit effectivement, on peut pas le voir autrement, que le traité simplifié n'est pas simplifié du tout, que c'est bien la reprise du traité de 2005, qu'il a été saucissonné pour être rendu illisible de façon à ce que les gens ne demandent pas un référendum. C'est beau la démocratie. Voilà, à la semaine prochaine.